autour de la question.
Qu'est-ce que c'est ?
Pourquoi c'est comme ça ?
Comment fait-on ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditrices et auditeurs, pour tenter de comprendre ce qui se passe dans la tête d'un cheval, en nous mettant quasiment dans la peau de cet animal fascinant, hypersensible et très sociable que vous ne regarderez plus jamais de la même manière après avoir écouté notre invité, l'éthologue Léa Lansade, spécialiste des émotions et de la cognition des animaux en général et des chevaux en particulier qu'elle monte et qu'elle étudie au plus près, quasiment face à face jusqu'à se mettre dans leur tête. Dans la tête d'un cheval, c'est le titre de son essai passionnant paru à l'automne 2023, date à laquelle elle était venue en direct, ici même dans ce studio, c'était le 23 octobre dernier, pour partager notamment le langage, ou plus exactement, les expressions faciales des chevaux qui communiquent ainsi leurs émotions et qui sont même capables de lire celles des autres chevaux, mais aussi les nôtres, celles des humains dont ils reconnaissent aussi le visage. Tiens donc, saviez-vous que les chevaux ont aussi l'esprit de famille, qu'ils sont toujours à fleur de peau? Les cinq sens en éveil et en alerte. Les chevaux ont des capacités cognitives impressionnantes, sans oublier une mémoire de cheval. Autour de la question, pourquoi et comment se mettre dans la tête d'un cheval ? Bienvenue pour commencer par nous mettre à leur écoute, enfin à l'écoute d'autres animaux que nous.
Léa, on essaye toutes les deux de comprendre comment les cochons et les chevaux communiquent avec nous et comment nous, en tant qu'humains, on essaye de communiquer avec eux. Quand est-ce qu'on arrivera à avoir des conversations, des échanges constructifs avec ces animaux ?
Bonjour Léa Lansade.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous pour répondre d'abord à cette question de votre consoeur, éthologue à l'INRAE, Céline Tallet, spécialiste, elle, des cochons. Alors, est-ce que vous parvenez, vous, Léa Lansade, à communiquer vraiment, à avoir des conversations avec les chevaux que vous étudiez ?
Tout à fait. Je crois qu'on arrive de plus en plus à avoir des conversations avec eux, notamment grâce à tous ces récents travaux scientifiques qui montrent à quel point les chevaux essayent de communiquer avec nous et parfois on ne les comprend pas, alors qu'en fait, il suffit de les observer, d'observer leurs expressions faciales, leurs petits gestes, notamment leurs petits contacts avec le bout du nez. Et en fait, ils nous disent plein de choses. C'est à nous d'avoir l'esprit ouvert pour essayer de les comprendre et de communiquer avec eux en retour.
C'est ça, pour décortiquer et traduire le langage cheval. Alors, je précise, Léa Lansade, que vous êtes chercheuse en éthologie, spécialiste à l'Institut français du cheval et de l'équitation, spécialiste des émotions et de la cognition animale. Vous dirigez une équipe de recherche, cognition, éthologie et bien-être animal, à l'INRAE, CNRS, à l'Université de Tours. Et vous venez d'écrire pour les éditions Humaine Science, dans la collection Monde Animaux, dans la tête d'un cheval, carrément. Alors, pourquoi et comment consacrez-vous votre vie de chercheuse, mais aussi de cavalière, je crois, à l'étude des chevaux et même à vous mettre dans leur tête ? C'est possible de se mettre dans la tête d'un cheval, Léa ?
Alors, c'est tout l'objectif des éthologues, hein, c'est d'arriver à se mettre dans leur tête et surtout pas de les mettre dans notre tête. Mmh. Et donc d'éviter à tout prix l'anthropomorphisme pour essayer de les comprendre au mieux.
Ça, c'est vraiment la différence qui se passe aujourd'hui pour les éthologues de votre génération. On ne fait pas comme autrefois, on inverse un peu. On regarde autrement le cheval et on essaye de se mettre dans sa tête. Enfin, le cheval pour vous.
Oui, et puis ça, je pense que ça a toujours été le but de l'éthologie, c'est vraiment de se mettre à sa place, d'essayer de comprendre comment lui comprend son monde avec ses propres spécificités, ses propres particularités. Et c'est tout l'objet de toutes les récentes études qui ont été menées sur son comportement.
Et notamment certaines études auxquelles vous avez participé, Léa Lansade, qui ont démontré que les chevaux reconnaissaient les visages des humains.
Ah oui, alors ça c'est une question que je me suis posée dès toute petite, quand j'allais dans mon centre équestre à la rentrée de septembre. Et ma grande question, il y avait beaucoup de cavaliers qui s'occupaient de ces poneys, je ne sais pas, peut-être plus d'une centaine. Mmh. Est-ce que mon poney me reconnaissait à la rentrée de septembre après les 2-3 mois d'été ?
Voilà.
Et c'est la magie de la recherche. J'ai eu l'opportunité, il y a quelques années, de pouvoir tester cette question de façon rigoureuse, de façon scientifique, grâce à un protocole bien établi. Donc ça faisait déjà longtemps que j'essayais de tester la manière de répondre à cette question.
Et du coup, vous avez réussi à prouver que oui, que les chevaux
tout à fait.
Vous reconnaissent même après 3 mois de vacances.
Tout à fait. On a mis au point un dispositif assez innovant, une grande tablette tactile pour les chevaux. Alors les chevaux adorent jouer avec.
Ils un iPad pour les chevaux.
iPad pour les chevaux. Alors ils ont des petites récompenses quand ils trouvent les bonnes réponses, l'équivalent de nos petits likes. Eux ont des petites récompenses. Et grâce à cela, on a pu faire des tests de conditionnement questionnement où on leur a posé la question, quand il y a deux visages, touche toujours le visage que tu connais. Et grâce à, ils ont appris facilement cela, et grâce à ce test, nous avons pu mettre des portraits de personnes qu'ils avaient vues passer plus de 6 mois avant, et ils les ont reconnus instantanément.
Ce qui nous entraînera aussi vers la mémoire de cheval, on parle des mémoires des éléphants, mais les chevaux ont également une mémoire extraordinaire. Alors comment définir cet animal qu'on connaît tous, à la fois emblématique et fascinant, c'est quoi? C'est l'autre meilleur ami de l'homme. Il est social, complètement sociable, complètement tourné vers les autres et hypersensible. Ça serait une bonne définition, ça, ah oui, Alain Sade ?
Oui, je crois que vous avez bien perçu ces particularités. C'est exactement ça. C'est les autres d'abord. C'est vraiment un animal excessivement social qui vit pour les autres et par les autres, grâce aux autres. Un animal seul, il dépérit.
Un animal seul, il dépérit. Un cheval seul, il dépérit. Ils sont hypersensibles. Ils ont une gamme d'émotions qu'ils ressentent. Ils sont presque plus sensibles que nous, les humains. Je ne sais pas s'il faut comparer, d'ailleurs.
Je ne sais pas s'il faut comparer, mais ce qui est sûr, c'est que oui, ils sont à fleur de peau, à tout point de vue, hein, même sur leur sensibilité tactile. Mmh. Ils ont une sensibilité tactile qui est supérieure à la nôtre, au bout des index. Si on nous touche au bout des index, on ne sent pas des petits cheveux. Eux, ils sentent. Donc, ils sont vraiment à fleur de peau. Et si on revient sur leur gamme d'émotions, oui, ça paraît maintenant assez évident qu'ils ressentent une très large gamme d'émotions et peut-être même des émotions que nous-mêmes, nous ne ressentons pas.
Et comment est-ce que vous le ressentez, ça, face aux chevaux que vous étudiez? Vous êtes aussi cavalière, vous les montez aussi. Vous l'aviez ressenti, ça? C'est quelque chose que les éthologues aussi démontrent scientifiquement?
Ah oui, mais il est évident que ma relation avec les chevaux a évolué avec l'acquisition de toutes ces nouvelles connaissances. Hein. J'étais ouverte à ce que les chevaux aient une grande intelligence, soient très sensibles. Mais là, je dois dire que les récentes études qui sont parues ces 5 dernières années me font voir le cheval encore différemment.
Avec l'esprit de famille, on y viendra aussi. Alors, est-ce que c'est pour ça, pour cette hypersensibilité, pour cette sociabilité, est-ce pour ça que nous avons monté les chevaux et que le cheval nous accompagne depuis longtemps? Alors, depuis très longtemps, mais bien moins longtemps qu'on ne le pensait. Ça, c'est aussi une grande découverte, celle du paléogénéticien Luc Orlando. C'est lui qui a démontré, en séquençant les plus anciens génomes connus, il a démontré que les chevaux ont été domestiqués il y a seulement 4200 ans, dans les steppes du Caucase, et pas en Amérique, hein, comme on a pu le croire aussi. Pourquoi le cheval a-t-il été domestiqué si tard et avec un tel succès qu'il galope aujourd'hui sur la Terre entière? Écoutez voir l'éclairage du paléogénéticien Ludovic Orlando.
Quasiment l'une des dernières, en fait, l'un des derniers méga herbivores que l'on ait jamais domestiqué. Pensez aux vaches, pensez aux moutons, aux chèvres, elles ont été domestiquées bien avant tout cela, 4 à 5 000 ans avant. Donc c'est assez paradoxal que le cheval est l'instrument de notre histoire, de notre proto-histoire, celui qui a permis l'histoire telle que nous la connaissons aujourd'hui, et néanmoins celle que l'on comprenait jusqu'à il y a très peu de temps, 1 à 2 ans de cela, le plus mal, en fait. Dès lors, et c'est nos travaux qui montrent ça, ils ont été publiés en 2021, dès lors qu'on a domestiqué le cheval dans ce confetti du monde que sont les steppes du nord du Caucase,
il devient... C'est où exactement? Alors,
donc, si vous voyez le Caucase, la montagne qui s'étend entre la mer Noire et la mer Caspienne, au nord de ce territoire-là, il y a une rivière qui est très connue qui s'appelle la Volga. Eh bien, dans la basse région de la Volga. Donc, un tout petit endroit du monde, et tout à coup, en un siècle ou deux, le cheval devient continental. Il est des côtes de l'Atlantique aux côtes du Pacifique, domestiqué dans un nouveau rapport aux humains. Donc c'est bien que la mode s'est emparée des chevaux d'une certaine manière et que ce nouveau type que l'on a domestiqué, il a servi à réaliser plein de tâches. Alors on vient de parler de la mobilité, je disais à l'instant aussi les guerres et plus tard, bien plus tard dans l'histoire, l'agriculture. Car un cheval, ça travaille au champ 2 fois plus vite et 2 fois plus longtemps qu'une vache en moyenne, si bien que la productivité de nos champs a changé dès lors qu'on s'est muni du cheval et de nouvelles manières de travailler la terre.
La conquête du cheval, pour reprendre le titre de l'ouvrage du paléogénéticien Ludovic Orlando, elle nous a changé, nous les humains, elle a changé notre histoire, nos guerres, nos déplacements, notre agriculture. Est-ce qu'elle a aussi changé les chevaux, évidemment, en les domestiquant?
Alors oui, évidemment, hein, c'est ce que Ludovic Orlando explique, c'est qu'un grand nombre de races, après, petit à petit, sont apparues. Alors au début, on ne parlait pas forcément de races, d'ailleurs, hein, mais d'utilisations différentes. Il y avait la mini de l'époque, la jolie acnée pour les femmes, le cheval de bât, le cheval de guerre, le cheval pour tirer les voitures. On parlait vraiment comme ça d'utilisation, et puis petit à petit, on s'est mis à parler de races, on a fait des sélections, et aujourd'hui, on a des centaines de races différentes qui vont du tout petit Shetland, du petit poney Shetland qu'on retrouve dans les poney clubs, jusqu'au grand shire, des grands chevaux qui tirent des attelages majestueux.
Mais vous dites d'ailleurs avec beaucoup d'humour que ces chevaux domestiqués, si on leur rend pas vraiment leur liberté, mais s'ils redeviennent libres et sauvages, ils ne retournent pas dans un box, hein, ils restent dans la nature à vivre.
C'est ça qui est remarquable, c'est qu'après 4000 ans de domestication, si on ouvre les portes des box, ils retrouvent tous exactement le même mode de vie. Et qu'est-ce que c'est ce mode de vie ? Ils se remettent dans des cellules familiales autour des jeunes animaux, des poulains, avec un étalon, quelques juments, des petits groupes de mâles célibataires. Et tous les chevaux à qui on a ouvert les portes, hein, donc ça on appelle les chevaux féraux, qui sont retournés à l'état naturel, ont retrouvé tous exactement ce même mode de vie.
Parce que ça faisait pas si longtemps que ça qu'ils avaient été domestiqués. Et aussi, alors ce qui est très étonnant, vous racontez leur mode de vie, ce mode de vie en famille. Les chevaux, alors vous dites, leur monde est tourné vers les autres et ils sont très proches de leur famille, ils vivent en famille.
C'est vraiment essentiel pour eux de vivre en groupe. Un cheval isolé n'aurait pas une grande espérance de vie, hein, parce qu'il y a les prédateurs. Donc lui, il vit vraiment dans des cellules familiales, donc avec un étalon, quelques juments. Donc les juments ont choisi l'étalon qu'elles préféraient. Et les poulains, qui vont des poulains de l'année, qui viennent de naître, jusqu'à des poulains de 3 ans. Et ils vivent comme ça en cellules familiales. Et puis, il y a plusieurs cellules familiales qui peuvent vivre sur un même domaine vital. Et il y a beaucoup d'interactions. Par moments, ils se rassemblent dans des très grands troupeaux. Donc ça nécessite de pouvoir reconnaître les autres, de pouvoir détecter leurs états mentaux. Parce que sinon, ça serait un gros bazar hein, quand toutes les familles viendraient ensemble. Donc, ils doivent se souvenir, ils doivent mémoriser. Ils doivent peut-être capter l'intention aussi des autres membres des autres familles. Donc, c'est ça qui a probablement fait que le cheval est très doué pour comprendre l'autre.
Très doué pour comprendre l'autre, il est obligé d'être en famille, donc un mode toujours sociabilité. Comment ça se structure les familles ? Il y a une hiérarchie chez les chevaux, comme il y en a chez les primates, comme il y en a chez les humains.
Tout à fait, et on a même un petit peu trop longtemps résumé les relations sociales entre chevaux aux relations de dominance. Avec un dominant, des dominés, même dans une certaine forme d'équitation, on voulait que l'humain soit le dominant, comme il y aurait à l'état naturel. Et puis plus on les regarde, plus on s'aperçoit que ce sont au contraire les relations d'affinité hein, qui guident ces cellules familiales. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et puis il y a des chercheurs, notamment en France, comme Odile Petit, Marie Bourjat, qui travaillent sur les phénomènes de prise de décision collective. Donc ça serait plutôt tout le groupe qui déciderait qui il va choisir de suivre lors de déplacements collectifs. Donc ça, c'est vraiment intéressant et ça nous fait voir sous un jour nouveau ces relations sociales au sein des animaux.
Et ça nous fait voir aussi sous un jour nouveau notre domination par rapport à ces animaux. On change effectivement de regard par rapport à eux. Et puis, ils voient, ils entendent, ils sentent, vous avez parlé du toucher, leurs 5 sens sont toujours en éveil. C'est vraiment même le titre d'un de vos chapitres. Enfin, c'est des animaux tournés vers les autres et qui ont donc leur sens ouvert sur les autres.
Ah oui, c'est vraiment des animaux à fleur de peau. Il suffit de s'approcher d'un cheval, vous allez le voir frémir, vous allez le voir avoir les grandes oreilles, ses grandes oreilles pointées en avant pour écouter tout son environnement, ses naseaux qui s'ouvrent pour attraper les molécules olfactives. Il a aussi un sens du goût très développé parce que dans beaucoup d'écuries, pendant longtemps, on leur a donné toujours la même avoine, le même granulé, très monotone. Alors que là, les découvertes récentes montrent qu'au contraire, si on lui laisse la possibilité, il a tout un menu qui varie en fonction des saisons, les fruits, les mûres l'été, les écorces l'hiver. Il passe un temps infini, il mange 16 heures par jour le cheval.
Ah oui, c'est beaucoup quand
même.
Ah oui, 16
toute la
heures
journée.
Par jour.
Oui, parce que vous imaginez, un cheval c'est 500 kilos et ça mange que de l'herbe.
Faut
des
faut
végétaux
nourrir,
en tout cas,
kilos,
donc oui. Il en faut beaucoup, beaucoup. Donc il doit passer 16 heures par jour à manger. D'où l'idée qu'il est fin gastronome finalement, parce qu'il ne mange pas tout le temps la même chose, ça serait monotone. Donc il va aller explorer, il ne mange pas comme ça à l'arrêt devant ses pieds jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air, puis il se déplace. Non, il va aller chercher chaque petite feuille avec soin, donc c'est vraiment un gastronome.
Que pensez-vous, c'est une de nos auditeurs sur les réseaux sociaux qui pose la question de l'éducation avec la friandise justement ou avec la carotte. Est-ce que c'est, elle nous demande, hein, Margot, est-ce que c'est pas prendre le risque qu'ils ne comprennent pas quand il n'y en a pas de friandise
Alors non, au contraire, il faut utiliser les friandises dans l'éducation des chevaux parce que on a assez peu de moyens de créer des émotions positives chez lui, nous en tant qu'humains. Alors on peut faire des caresses, des petites gratouilles et puis il y a bien sûr la distribution des récompenses et c'est quand même beaucoup plus agréable pour le cheval de venir travailler parce qu'il va obtenir une récompense plutôt que voilà, de menacer avec des contacts de jambes ou éventuellement la cravache. Donc au contraire, il y a beaucoup d'études aujourd'hui qui montrent l'intérêt d'utiliser les friandises, les récompenses alimentaires dans le travail et l'éducation des chevaux.
Donc il vaut mieux la carotte que le bâton, ça c'est sûr.
C'est certain.
Et ces chevaux qui ont donc le sens du toucher, le sens de la vue, on va y venir, ils communiquent, vous dites, avec leurs expressions faciales. Alors, comment est-ce qu'on peut reconnaître, nous, puisque bon, on se passe du point de vue des humains, mais quand on voit un cheval, quelles sont leurs expressions faciales? Qu'est-ce qu'ils disent?
Alors ça, c'est un domaine de recherche assez récent, même très récent, et absolument fascinant. Parce que très longtemps, on a réduit les expressions faciales du cheval aux oreilles, aux positions des oreilles, ça vous devez le savoir. Oreille en arrière, il n'est pas content, il est dangereux, oreille en avant, tout va bien. Mais non, pas du tout. Ce que l'on a découvert il y a quelques années, c'est que le cheval a une musculature de la face qui est aussi complexe que la nôtre. Et donc, il peut faire bouger chaque petite partie de son visage pour exprimer notamment ses émotions. Et ça, les chercheurs, nous sommes en train de les décoder. Dans notre équipe, on travaille sur ça, à décoder toutes ces expressions faciales. Vous savez, nous, on manifeste toutes nos émotions via des expressions qui sont quasi universellement reconnues.
Le sourire,
la colère, le dégoût. Hein. Si je fais une tête de dégoût, ouais, vous allez reconnaître mon émotion. Et il semblerait bien que c'est la même chose chez les chevaux. Mais ce qui est étonnant, c'est que ça fait donc 4200 ans qu'ils sont domestiqués et qu'on n'est quand même toujours pas très doués pour les décoder et qu'on a besoin d'études scientifiques pour les décoder de façon un peu plus objective.
Et par exemple, vous pouvez nous décrire une petite mimique de cheval qui exprimerait son émotion, Léa Lansade ?
Ah oui, complètement. Alors la mimique qui a fait l'objet d'un article scientifique il y a quelques années et que j'adore, c'est quand on commence à gratter avec ses doigts le garrot d'un cheval, donc ce qu'on appelle l'allogrooming. Et là, le cheval, au début, ça va être très subtil. Il va juste avancer un petit peu la lèvre vers l'avant. Il va orienter ses oreilles dans l'axe de son chanfrein. Les yeux vont pas se fermer, mais vont pas être très grands ouverts. Il va tendre un petit peu ses muscles là, sur le côté de la face. Et puis, petit à petit, sa lèvre va s'avancer comme un bisou.
Oh, et là, c'est vraiment... Parce qu'il est content.
Voilà, parce qu'il est content. Il aime ses gratouilles. Et ce que l'on a vu, c'est quand un cheval fait ça, eh bien, les autres chevaux vont venir... Dès qu'ils voient cette mimique, ils vont venir et ils ont beaucoup plus de chances d'entamer des grooming quand ils ont vu un cheval faire ça. C'est vraiment un signal très positif que les chevaux comprennent entre eux et qui va promouvoir des réactions positives autour d'eux. Donc ça, c'est une mimique très mignonne à voir.
Ah, clairement, autour de la question comment se mettre dans la tête d'un cheval, comment comprendre ses expressions faciales, ses mimiques. Le poète Folfort et le grand Georges Brassens s'y sont essayés en leur temps avec le petit cheval blanc. C'est l'un de vos choix musicaux, Léa Lansade. Et nous, on vous le propose dans une version revisitée par le musicien et chanteur camerounais Christo Numpubi, le petit cheval blanc, version camerounaise sur RFI.
Le petit cheval dans le mauvais temps, qu'il avait donc du courage. C'était un petit cheval blanc, tous derrière et tous derrière. C'était un petit cheval blanc, tous derrière et lui devant. Il n'y avait jamais de beau temps dans ce pauvre paysage. Il n'y avait jamais de printemps, ni derrière ni derrière. Il n'y avait jamais de printemps, ni derrière ni devant. Mais toujours il était content du village, à travers la plus noire des champs, tous derrière et tous derrière, à travers la plus noire des champs, tous derrière et lui devant. Sa voiture allait poursuivant sa belle petite queue sauvage. Alors qu'il était content, tous derrière et tous derrière. C'est alors qu'il était content, tous derrière et lui devant. Mais un jour dans le mauvais temps, un jour qu'il était si sage, il est mort par un éclair blanc. Derrière mort par un éclair blanc, tous derrière et lui devant. Il est mort sans voir le printemps qu'il avait donc du courage. Il est mort sans voir le beau temps, ni derrière et ni derrière. Il est mort sans voir le beau temps, ni derrière et ni devant.
Le petit cheval blanc, hommage à Georges Brassens, signé du musicien et chanteur camerounais Christo Noumkoubi sur RFI. Ça vous plaît, Léa Lansat, comme version?
Oui, c'est plus gai que l'original. Hein,
c'est vrai, absolument, que le poème de Paul Fort. Alors, je rappelle, Léa Lansat, que vous êtes éthologue à l'INRAE, à l'Institut français du cheval et de l'équitation, spécialiste des émotions et de la cognition des chevaux. Autour de la question « Comment se mettre dans la tête d'un cheval ?» Dans la tête d'un cheval, c'est le titre de votre essai dont nous avons un exemplaire à vous offrir, chers amis auditrices et auditeurs. Si vous nous le demandez par mail ou sur notre page Facebook, avis aux amateurs et aux amatrices, vous êtes déjà nombreux et nombreuses à réagir et à nous poser des questions sur les réseaux sociaux. Alors, un de nos fidèles auditeurs à Madagascar, Bao Rakoto, nous demande si est-il vrai que le cheval est daltonien, Léa Lansat.
Alors, effectivement, le cheval ne voit pas les couleurs comme nous. Nous sommes trichromates, donc nous voyons dans le rouge, le vert, le bleu. Et le cheval, lui, il lui manque la gamme du rouge.
Il ne voit pas le rouge.
Alors, il ne le voit pas, il le voit comme les nuances de vert. Voilà. Il lui manque une couleur par rapport à nous. À l'inverse, les oiseaux, hein, beaucoup d'oiseaux ont une quatrième couleur, ils peuvent voir dans les UV. Et donc, nous, on en voit trois, le cheval 2.
Et pourtant, il a un sens de la vision, enfin une vue très développée et une manière de regarder qui est plus, comment dire, plus forte que la nôtre.
Hein, plus panoramique.
Plus panoramique que la nôtre. Voilà, c'est ça.
Qu'effectivement, hein, quand on regarde un cheval, il a ses yeux placés de façon latérale, donc il voit tout autour de lui.
Pratiquement
tout autour de lui, avec juste des très légers mouvements de la tête, il voit tout autour de lui.
Autour de la question, comment se mettre dans l'œil d'un cheval? Comment les chevaux voient-ils le monde? Un peintre expressionniste a tenté de le montrer, c'était au début du siècle. Il s'appelle Franz Marc, et c'est l'anthropologue et grand voyageur Romain Simnel qui nous le rappelait ici même, en étant récemment notre invité. Je propose de l'écouter.
Il s'est carrément mis dans la tête d'un cheval, et puis il y a longtemps en plus, c'est Franz Marc, donc il était vraiment précurseur, on va dire. Et donc il peignait en fait des paysages tels que vus par les chevaux. Et c'est vrai que c'est, quand on voit ces peintures, c'est très abstrait et l'espace n'est pas du tout tel que l'humain se le représente. Donc ma question, c'est de savoir si l'intuition finalement de Franz Marc a essayé de restituer en fait les paysages tels que vus par les chevaux. Est-ce que ça a un sens aujourd'hui pour une éthologue et pour les sciences de l'éthologie? Est-ce qu'il était quelque part un précurseur? Est-ce qu'il a eu cette intuition avant les éthologues? Et est-ce que ça parle aux éthologues? Voilà.
Vous nous décrivez simplement peut-être un tableau ou un aperçu de ce peintre Franz Marc dans la tête des chevaux, dans l'œil du cheval?
Dans l'œil du cheval, oui. On avait choisi pour le livre sur la COP21 une de ces images. Et en fait, l'espace était assez circulaire. Donc en fait, on voyait des collines et l'horizon qui se mélangeait en fait de manière assez circulaire. Donc je pense qu'il a dû observer pendant très longtemps les chevaux, la manière dont ils regardaient l'espace, dont ils se positionnaient dans un territoire, dans un paysage, et il en a déduit en fait cette perception du paysage par les chevaux. Ce qui est quand même absolument incroyable. On est au début du XXe siècle. Faut quand même un sacré degré d'empathie pour pouvoir faire ça.
Alors, Léa Lansat, l'éthologue, vous êtes spécialiste des chevaux, en pense quoi de cette empathie de ce peintre pour les chevaux et de cette vision panoramique?
Oui, et puis se mettre à la place d'eux, c'est exactement l'objectif de l'éthologue. Donc ça aurait pu être un collègue avant l'heure, complètement. Effectivement, en plus, il a bien résumé cette vision panoramique hein, où le cheval voit tout autour de lui. Donc oui, c'était un précurseur, clairement, et depuis, des études sont venues enrichir hein, ses connaissances. Par exemple, on sait maintenant que le cheval voit assez bien dans la nuit, contrairement à nous.
Eh oui.
Parce qu'il est équipé de bâtonnets au sein de son œil. Et ces bâtonnets, nous, on en a, mais seulement en vision périphérique de l'œil. Et quand vous voulez regarder des étoiles la nuit, moi, je suis une amatrice d'étoiles filantes.
Nous aussi, hein, et les auditeurs aussi, sais, absolument. Aussi.
Et quand vous voulez voir une étoile qui est assez faible, vous ne la fixez pas, vous allez la regarder sur le côté. Vous regardez à côté de l'étoile et c'est là qu'elle vous apparaît. Parce que là, vous allez faire fonctionner vos fameux bâtonnets qui permettent de voir dans une luminosité faible. Et il faut savoir que le cheval a beaucoup plus de bâtonnets que nous, et donc il est beaucoup plus doué que nous pour voir dans la pénombre, même dans une pénombre bien avancée, comme une forêt dense avec juste la lumière de la lune.
Le cheval, il voit bien, lui, donc juste à la lumière de la lune. Pour ses autres sens, ils sont aussi très développés, tous les sens du cheval.
Exactement, notamment l'olfaction. Alors là, nous menons des projets qui m'étonnent, hein. Enfin, les résultats des chevaux m'étonnent sur son olfaction. Et nous montrons par exemple qu'ils sont capables de détecter nos odeurs de peur.
Détecter nos odeurs de peur. Parce que ce sont quoi ? Peut-être les mêmes que celles que émettraient leurs congénères. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment eux aussi très empathiques.
Alors ça pourrait être une forme primitive d'empathie, de reconnaître les émotions d'autrui. Et notamment là, ce qui est intéressant, c'est que ça passe la barrière des espèces, puisque là, ce n'est pas de cheval à cheval, comme on parle depuis le début de l'émission, mais du cheval à l'homme. Et ça, ce sont tous mes travaux de recherche, c'est ça qui m'intéresse, c'est comment le cheval nous perçoit, nous humains, perçoit nos émotions. Donc là, j'en parlais par exemple via nos odeurs.
Alors, il perçoit nos émotions via nos odeurs, on va y revenir, et il a aussi de la mémoire. Le cheval, il a la mémoire, vous l'avez dit, pour ses congénères, c'est un animal social, pour vivre avec eux, pour les reconnaître, ceux qu'il aime, ceux qu'il n'aime pas. Il a aussi une personnalité, mais il a une mémoire. On parle de mémoire d'éléphant, il faudrait parler de mémoire de cheval quand même.
Exactement, et ça c'est absolument indispensable si on met au regard de sa vie dans les conditions naturelles, avec ma collègue polonaise, Alexandra Górecka, hein, qui travaille sur des grandes réserves où il y a des petits chevaux coniques, des petits chevaux à la robe gris-souris avec une petite raie de mulet sur le dos et des petites zébrures. On a regardé comment ils évitaient la consanguinité. Et donc, on a pu montrer que les étalons reconnaissent leurs filles, même des années après, pour éviter évidemment de
ils
se reproduire
en famille et pas
avec elles. Voilà. Et donc, si on les laisse avoir un environnement de vie assez proche de l'état naturel, ils reconnaissent même les liens de filiation pour éviter ces problèmes de consanguinité.
Donc on peut vraiment parler d'empathie, enfin de mémoire et d'empathie chez les chevaux.
Alors l'empathie, il y a encore d'autres critères avant de pouvoir en parler. Mais là, c'est vrai que tout ce que l'on montre sur la reconnaissance, par exemple, de nos émotions ou des émotions au sein des chevaux, laisse une porte bien ouverte pour continuer à explorer ce champ.
Un cheval peut-il souffrir de dépression ? C'est un autre auditeur sur nos réseaux sociaux qui le demande. Par exemple, suite à un changement de compagnon, d'environnement, de rythme, d'activité. Vous travaillez aussi évidemment sur le bien-être animal, Léa Lansade.
Alors oui, malheureusement, les chevaux, eux aussi, peuvent souffrir de dépression. Notamment quand on les prive de leurs réseaux sociaux, de leurs contacts
sociaux. De leurs réseaux sociaux, mais oui.
Voilà, quand on les isole. Alors malheureusement, c'est traditionnellement un mode de vie assez courant de mettre les chevaux tout seuls dans des boxes. Et ça, c'est quelque chose que j'avais par exemple sous-estimé et je veux donner de leçon à personne parce que si on ne sait pas, on ne peut pas savoir à quel point c'est délétère. Mais aujourd'hui, il y a tout un corpus de littérature scientifique qui montre qu'isoler le cheval, donc en le privant de ses congénères, alors que c'est essentiel pour lui, en l'empêchant de marcher, alors qu'en fait, il marche toute la journée, il marche 20 heures par jour, il se déplace pour manger. Et même en lui donnant des repas comme nous on donnerait à un humain 3 fois par jour. Lui, il mange toute la journée, il doit grignoter toute la journée. Donc si on le prive de ces 3 fondamentaux-là, eh bien, au bout de quelques années, il développe des troubles. Beaucoup de chevaux développent des troubles, d'autres sont plus résistants. Et certains sont similaires à la dépression.
Ils ont une personnalité, ces chevaux, vous le dites vous-même. Chacun, tous les animaux, on le sait aujourd'hui, ont une personnalité. Mais chez les chevaux, c'est peut-être particulièrement développé.
Oui, alors moi j'ai fait ma thèse sur le sujet de la personnalité des chevaux il y a plus de 20 ans. Mais à l'époque, je n'avais pas le droit de parler de personnalité. Parce qu'il y a le terme personne, et donc on gardait le terme de tempérament. Mais aujourd'hui, c'est fabuleux de se dire qu'on peut parler de personnalité. D'ailleurs, ça a totalement supplanté le terme de tempérament, et qu'on va étudier la personnalité de plein d'animaux, alors qu'à l'époque, c'était réservé seulement à quelques espèces, notamment les chevaux, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Et aujourd'hui, on va parler de la personnalité du cochon, de la vache, de la chèvre.
C'est ça, on se rend compte que chacun est particulier. Et chez les chevaux, chez vos chevaux, j'ai envie de dire, Léa Lansade, c'est encore plus fort. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont, ils sont tous tournés vers les autres, mais il y en a qui sont quoi ? Plus coléreux, plus peureux, plus...
Oui, c'est ça, on a développé un modèle de personnalité avec 5 dimensions. Donc on peut caractériser la personnalité d'un cheval avec des tests qui durent environ une demi-heure. Et on peut vraiment cerner sa personnalité. Donc, est-ce qu'il est émotif ou pas, peureux ou pas ? Est-ce qu'il est plus ou moins grégaire? Parce qu'effectivement, ils sont tous grégaires.
En groupe, ils aiment être en groupe.
Mais il y en a qui ne supportent vraiment pas du tout de se séparer, même à quelques mètres des autres. D'autres sont un peu plus tolérants à ça. Et ça, c'est vraiment un trait qui est stable dans la vie de l'animal. Leur sensibilité aussi, il y a des chevaux qui sont extrêmement sensibles à tous les stimuli de l'environnement. Le moindre contact sur leur peau va les faire frémir, le moindre bruit va les mettre en alerte. Et puis d'autres qui sont plus tolérants aussi par rapport à ça. Et puis des chevaux très actifs ou des chevaux proches de l'homme et moins proches de l'homme.
Autour de la question comment se mettre dans la peau, dans la tête d'un cheval et pourquoi c'est essentiel, on s'en rend compte. Et il y a un film qui a beaucoup fait pour le bien-être du cheval, pour le reconsidérer autrement, notamment en termes de communication. C'est L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux avec Robert Redford, vous vous en souvenez peut-être. Alors je ne sais pas, Léa Lansat, si vous vous murmurez à l'oreille des chevaux que vous étudiez, mais je propose tout de suite un petit extrait de la bande-annonce du film en version française, suivi par un interview en version originale, donc en américain, d'un formidable chuchoteur. Il s'appelle Pat Parelli, extrait du documentaire de Cécile Neuris, Quand les chevaux murmurent à l'oreille des hommes.
J'ai lu dans un article que vous aidiez les propriétaires qui ont des problèmes avec leurs chevaux.
Non, j'aide les chevaux qui ont des problèmes avec leurs propriétaires. Quand je travaille avec un cheval, j'aime bien connaître son histoire. Alors pour comprendre ce qu'il a dans la tête, il faudrait vraiment que je sache ce qui s'est passé cette nuit-là.
Plus on observe le comportement des chevaux entre eux, ce que fait tel cheval avec tel autre, tel jument avec son poulain, tel étalon avec le reste du troupeau, mieux on comprend leur manière d'assimiler les règles du groupe et de communiquer entre eux. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaie de faire. Tant de cavaliers s'inspirent d'autres cavaliers, moi, je m'inspire des chevaux. Chaque fois que j'observe des chevaux en liberté dans une aussi belle prairie, j'essaie de repérer les agressifs, les curieux, ceux qui semblent être les leaders. Ce sont les chevaux qui me renseignent sur leur mode de vie en groupe. Lorsque je suis avec des chevaux, pour les monter ou pour toute autre chose, je m'appuie sur ces connaissances. Et de ce fait, ils sont plus disposés à suivre mes méthodes.
Vous écoutez Autour de la question, Caroline Achowski.
Et on vient d'entendre Pat Parelli, donc chuchoteur, extrait du documentaire « Quand les chevaux murmurent à l'oreille des hommes ». Est-ce que les chevaux, ils vous murmurent des choses à l'oreille, chère Léa Lansat? Et en quoi ce film, notamment « L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux », a aussi changé les choses dans le rapport de nous humains avec ces animaux-là?
Alors oui, les chevaux murmurent, pas forcément avec des mots, hein, bien sûr.
C'est ça.
Mais on en disait avec des petits gestes, leurs expressions faciales, leurs postures. Sans arrêt, ils cherchent à communiquer avec nous. Et oui, ce film qui a quasiment 20 ans hein,
oui,
maintenant, je crois, hein, c'est ça. Ça a quand même fait date parce que ça a été une petite révolution aussi. Hein. On a ensuite parlé en France de l'équitation qu'on appelle éthologique, des chuchoteurs. Et puis, ces méthodes ont largement évolué. Hein. Les méthodes importées par Pat Parelli il y a 20 ans ne sont plus les mêmes qu'aujourd'hui, mais ça a vraiment mis un nouveau regard, apporté un nouveau regard à notre relation avec les chevaux et aux méthodes d'éducation de ces animaux.
Alors justement, vous travaillez aussi dans ce sens-là, hein, pour... autour du rapport que nous, humains, entretenons avec les chevaux et autour de la manière dont les chevaux entretiennent des rapports avec nous, il y a quand même encore pas mal, comment dire, d'idées reçues, notamment autour des juments. Il y a même des questions d'auditeurs. Est-ce que le caractère des juments est différent, plus délicat?
Ah oui, alors ça, c'est une question récurrente. Hein. Est-ce que les animaux de sexe féminin auraient mauvais caractère? On voit bien d'où ça vient.
C'est toujours la même question.
Toujours la même question. On réduit souvent la jument à ses hormones, mais bien sûr que non. Hein. Au contraire, les étalons sont même parfois un peu plus délicats, hein, les cavaliers le savent, que les juments. Donc il ne faut absolument pas réduire un cheval à ses hormones. Et puis il y a plein d'autres paramètres qui font qu'un cheval va plus ou moins coopérer avec l'humain. Et souvent, c'est la manière dont l'humain a interagi avec le cheval et comment il l'a éduqué, comment il a pu mettre en place une relation de confiance ou au contraire d'absence de confiance.
C'est là-dessus aussi que vous travaillez d'ailleurs, hein, comment finalement établir une relation de confiance, d'autant qu'on en revient à la mémoire des chevaux. Ils ont de la mémoire, les chevaux, ils se souviennent quand on leur a fait du bien, quand on leur a fait du mal.
Exactement, il y a des études qui montrent qu'ils sont même capables de retenir plus de 10 ans après, simplement des formes abstraites qu'on leur a représentées et apprises 10 ans auparavant. Donc une mémoire à long terme extraordinaire. Mais attention, il y a un autre type de mémoire, c'est la mémoire à court terme. Et là, c'est pas forcément terrible.
Ah oui, c'est ça, ils ont une très bonne mémoire à long terme. Mais pas une grande mémoire à court terme du tout.
Voilà, donc je ne vais pas rentrer dans le détail des différents systèmes de mémoire. Mais par exemple, si je vous donne mon numéro de téléphone, vous allez le retenir quelques instants. Puis ensuite, ça va vous allez l'oublier.
Le cheval, il ne le retiendra pas.
Non, le cheval, juste même, on pose de la nourriture devant lui, on cache l'endroit où c'est et ça, il va oublier. Donc vraiment, ça nuance aussi parce que le cheval n'a pas des pouvoirs surnaturels. Hein, faudrait pas
bien
croire
sûr.
Ça. Il ne faut pas l'imaginer comme, je sais pas, une licorne magique, ce n'est pas ça. Il a ses propres particularités, sa propre intelligence. Et on a vu dans le domaine du social que c'est incroyable, ses compétences. Mais il y a d'autres domaines, c'est moins bien que nous.
Voilà. C'est ça. Et donc, du coup, tout dépend des questions qu'on lui pose au cheval. Hein, pour le voir, il n'est ni surintelligent ni complètement bête. C'est nous qui sommes parfois un peu trop bêtes pour comprendre l'intelligence des animaux. Ça, c'est Franz de Waal, grand éthologue, qui le disait.
Hein. Exactement. Pour reprendre Franz de Waal, on est sans doute trop bête pour comprendre des compétences qu'il possède et que nous ne possédons pas.
Autour de la question, comment se mettre dans la tête d'un cheval grâce à vous, Léa Lansade, jusqu'où même imaginer ce que les chevaux peuvent penser de nous, humains, et de nos comportements parfois trop bêtes. On continue de s'interroger juste après avoir écouté un autre de vos super choix musicaux. Eh ben oui, c'est A Horse With No Name, le groupe américain sur RFI.
On the first part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name. The cities lies a heart made of ground, but the
I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain.
Superbe chanson du groupe America sur RFI, A Horse With No Name. Merci pour ce très beau choix musical, Léa Lansat. Vous êtes éthologue et vous venez de publier Dans la tête d'un cheval aux éditions Humaines Sciences, ouvrage dont nous avons un exemplaire à vous offrir, chers amis auditrices et auditeurs qui êtes nombreux à réagir sur nos réseaux sociaux autour de la question comment se mettre dans la tête d'un cheval et pourquoi eux, les chevaux, se mettent si aisément dans la nôtre de tête. Nouvel éclairage d'une anthropologue, maître de conférences en langue et civilisation mongole à l'INALCO, mais aussi cavalière. Elle s'appelle Charlotte Markina. Elle a étudié de très près, sur place, les rapports des cavaliers mongols avec leurs chevaux et vice-versa. On l'écoute.
Alors, ils ont une très grande admiration pour ces animaux qui sont avant tout des compagnons de travail. Donc, ils les montent au quotidien pour aller chercher les troupeaux. Et donc, ils les considèrent comme des animaux extrêmement intelligents. Et ils encouragent leurs animaux à prendre des initiatives, à être autonomes. Donc ils attendent de la monture que ça soit un vrai collaborateur et à qui on n'a pas tout le temps besoin de dire quoi faire, quand faire, mais qui doit prendre...
Une de vos dernières parutions, je crois, traitait d'un cheval sobre avec un cavalier qui l'est moins. Le rapport, c'est ça de...
Alors, c'est une communication que j'ai présentée à un colloque au Canada où je parlais donc des cavaliers ivres, où je parlais de la coordination des mouvements entre humains et animaux à travers l'exemple du cavalier ivre qui est tout à fait fascinant. Parce qu'en Mongolie, on peut parfois croiser des cavaliers qui sont complètement ivres et qui donc, en plein galop, tanguent du haut de leur cheval, ils se balancent à gauche, à droite, et on se demande comment, par
comment
un miracle,
ils
restent en selle. Et ce qui se passe, c'est que d'une part, en fait, le cavalier a une expérience de la monte qui est tellement incorporée qu'en fait, il se passe des choses certainement de manière inconsciente. Mais en plus, là où la monture est tout à fait coopérative, elle contrebalance les mouvements complètement déséquilibrants du cavalier. Donc, on assiste à un spectacle tout à fait fascinant.
Et ça tient, ça tient.
Et ça tient, oui.
Alors, quand
parfois,
ça ne tient pas,
voilà,
oui.
Ça arrive que ça ne tienne pas. Dans ce cas,
que le cavalier
bute
vraiment trop de vodka.
Tombe, voilà. Et dans ce cas-là, le cheval va en général sagement attendre à côté du cavalier qu'il se remette en selle.
Léa Lansat, j'ai envie de vous faire réagir à cet éclairage de la cavalière et anthropologue auprès des Mongols, Charlotte Markina.
Bah, tout à fait, je crois qu'il n'y a même pas besoin d'aller en Mongolie pour observer ce phénomène, puisque dans nos campagnes, les anciens racontent que les sorties de caves se faisaient souvent grâce aux chevaux qui ramenaient les personnes parfois un petit peu ivres chez elles. Et c'était peut-être finalement moins dangereux que de prendre la voiture.
Et oui, c'est ça. C'est étonnant quand même, cette complicité entre le cheval et l'homme. Même s'il a fallu des études scientifiques pour comprendre à quel point, effectivement, on était peut-être trop bêtes pour comprendre l'intelligence des chevaux. Mais malgré tout, il y a une complicité, il y a quelque chose de l'ordre entre les deux. Le cheval est un animal social, l'homme est aussi un animal très social.
Ah oui, là, il y a quelque chose qui se joue réellement. Et c'est ce que ces études scientifiques montrent quand on regarde leur capacité, par exemple, à lire nos expressions faciales en lien avec nos émotions. Ils réagissent quasiment à toutes nos émotions. On leur projette dans notre équipe des images sur des grands écrans.
Ils voient les films, quoi, les images.
Voilà, ils voient les films. Déjà, ça, c'est assez amusant parce qu'ils sont captivés par les films. On a des salles de cinéma pour chevaux. Ils sont absolument captivés par les films. Ils se mettent en position d'alerte. Ils attendent de voir les images. Et avec ces dispositifs-là, on a pu montrer qu'ils reconnaissaient nos expressions faciales de joie, de colère, de peur, mais aussi de tristesse. Ça, c'est un dernier article que nous venons de publier. Et ça les fait même réagir en retour.
Quand on est triste, quand quelqu'un qui connaît est triste ou...
Alors là, c'est même plus fort parce que c'est des personnes qui ne connaissent pas, juste des projections de visage sur des écrans, projections d'images tristes associées à des voix tristes. Déjà, ils savent associer la voix triste avec le visage triste, le visage joyeux avec la voix joyeuse. Ou en colère avec la voix en colère. Et quand ils entendent des voix tristes, leur rythme cardiaque s'abaisse. Vous savez, la tristesse, c'est une émotion avec un niveau d'excitation assez bas par rapport à la joie, qui a un niveau d'excitation plus
haut. Bien sûr.
Et quand ils entendent les voix joyeuses, leur rythme cardiaque s'accélère. Et quand ils entendent les voix tristes, leur rythme cardiaque s'abaisse et ils sont dans une position plus basse également, d'intensité plus basse. Donc, c'est vraiment comme ça un miroir émotionnel, on pourrait dire.
C'est ça, vraiment un miroir à la Moselle. Sur quoi ? Alors, vous parlez de ces derniers travaux qui sont étonnants, enfin, que vous faites voir des films et le cinéma pour chevaux et qui sont sensibles à nos émotions, à notre tristesse. Sur quoi vous travaillez en ce moment ? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas chez vous, chez nos amis les chevaux ?
Alors, on va toujours plus loin hein, dans l'exploration de leurs compétences à nous lire. Par exemple, on a montré qu'ils pouvaient comprendre nos intentions hein, sur des protocoles qu'on avait réservés alors aux humains d'abord et puis aux grands singes et qu'on ne voulait pas tellement appliquer aux animaux d'élevage, aux animaux de ferme. Là, on a montré que oui, ces protocoles marchaient très bien chez le cheval. Donc, la compréhension des intentions.
Les intentions, donc avant les même l'action, les intentions.
Voilà. On a également vu qu'ils pouvaient nous attribuer des réputations. Donc on leur montre des films de personnes, des vétérinaires qui font des soins pas agréables aux chevaux. Ou au contraire, on leur montre des personnes qui font des caresses aux chevaux. Et à partir de là, ils reconnaissent les personnes sur les écrans, attribuent des réputations aux humains hein, qu'ils ont vus.
En général, ils n'aiment pas les vétérinaires, si je vous ai suivi. Quand, hein, alors la ça, blanche.
Voilà, et quand les personnes viennent en vrai après ces films, ils se comportent de façon tout à fait différente avec le vétérinaire ou avec le groom. Mais par contre, là où ça nous a étonnés, et on a reproduit l'expérience cette année, c'est qu'ils vont voir le vétérinaire, la personne qui a fait un soin un petit peu délicat au cheval. Peut-être parce que dans la nature, on a vu que quand ils voyaient des conflits, ils allaient essayer peut-être, alors là, on va un peu loin, mais un peu résoudre les conflits et aller voir l'agresseur. Et ça, le fait qu'ils aillent voir les agresseurs, c'est assez récurrent.
Mais on a besoin des chevaux aujourd'hui, alors qu'on les a emmenés faire nos guerres, on en aurait besoin pour faire notre paix, finalement.
Probablement, oui, probablement.
Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné, Léa Lansat, dans ce travail, cette étude que vous menez vraiment au quotidien, au plus près des chevaux ?
Ben moi, ce qui m'impressionne, c'est que je vous disais au début de cette émission qu'on a besoin d'études scientifiques pour apprendre à lire leurs expressions faciales, alors que ça fait quand même 4000 ans qu'on cohabite avec eux. Et eux, ils le font naturellement. Des poulains lisent nos expressions faciales sans apprentissage, sur des écrans, en plus, dans des dispositifs très humains, quoi. Donc ça, c'est quand même assez étonnant, là, le fait qu'ils reconnaissent nos odeurs de peur. Enfin, je trouve ça assez incroyable, cette sensibilité et cette attention qu'ils nous portent.
Et c'est ça, cette attention qui nous porte jolie, comme vous renversez finalement la proposition. Un grand merci Léa Lansat d'être venue en direct partager cette sensibilité des chevaux, nous donner envie de les regarder autrement et de les toucher peut-être même, on a le droit. Hein.
Bien sûr.
Je rappelle le titre de votre ouvrage génial qui se lit d'un trait au galop, j'ai envie de dire, et qui nous rapproche encore un peu plus de ces chevaux que nous montons ou pas, mais qui arrivent à lire jusque dans notre tête. Et cet ouvrage s'appelle Dans la tête d'un cheval, dans la collection Mondes Animaux chez Humaine Science. À bon entendeur, un grand merci Léa.
Merci pour cette invitation.
Autour de la question, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez nous retrouver ce soir en rediffusion à 23h temps universel. Et bien sûr, vous abonner à notre podcast disponible sur toutes les plateformes et sur l'application RFI Pure Radio. Avec Alice Ménard et Thibaut Baduel à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses. Nous vous donnons rendez-vous lundi prochain pour nous interroger sur nos ancêtres. Autour de la question, qui était Denisova, ce cousin asiatique de Néandertal, l'énigme Denisova. À suivre lundi prochain. Merci pour votre curiosité sans cesse renouvelée, pour votre écoute, surtout gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. Vous êtes bien à l'écoute de RFI et c'est bientôt l'heure des informations.